nous allons lire dans Michée, au chapitre 5, des versets 1 à 4. Donc c'est à la page 1039. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Amen. Jeudi, François Hollande a annoncé qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. Je pense qu'il a compris que ses chances étaient infimes et qu'il n'était pas le meilleur candidat pour faire gagner la gauche aux prochaines élections. Et donc, en cette période électorale, plus que jamais, on réalise à quel point notre société recherche ou est en attente de l'homme ou de la femme providentielle. Le président idéal, celui ou celle qui va changer les choses et qui va sortir le pays de l'impasse. Et l'historien Jean Garrigue définit l'homme providentiel comme un personnage qui apparaît dans les périodes de crise et qui se présente comme le sauveur ultime, chargé d'une sorte de mission historique ou divine, à savoir résoudre d'un coup de baguette magique tous les problèmes qui se posent à la société à un moment donné. Et dans notre texte ce soir, Michée écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ, à une époque où l'idolâtrie, la corruption généralisée et l'injustice sévissent en Israël. Michée dénonce notamment dans les 4 premiers chapitres avec virulence la manière dont les dirigeants abusent de leur pouvoir, dont les tribunaux sont corrompus, et comment les prophètes de l'époque prophétisaient ou délivraient des prophéties mensongères pour plaire aux grands du peuple, aux puissants du peuple. Et donc, ce peuple que Dieu a mis à part pour être témoin devant toutes les nations s'est détourné de l'Éternel. Ce peuple s'est égaré. Et donc, le message de Michée est avant tout un message de jugement et de condamnation au royaume de Juda, au royaume du Sud. Et la déportation du royaume du Nord, donc la défaite du royaume du Nord et la déportation du peuple par les Assyriens, et la destruction de Samarie, fait écho à ce jugement-là. Mais malgré ces circonstances tragiques, Michée rappelle aussi au peuple la promesse de Dieu, celle de la venue d'un sauveur qui va dominer sur Israël, sauver son peuple et qui va lui donner la paix et la justice. Un sauveur dont le nom sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Et la question qu'on se pose, qui peut bien être ce sauveur, cet homme providentiel dont parle le texte? Je ne vais pas faire de faux suspense ce soir. Dans cette église, on croit que ce sauveur est Jésus-Christ. Voilà, tout est dit, on peut tous rentrer chez nous. Les questions auxquelles on va répondre ce soir, c'est d'où va venir ce sauveur? Quel est son parcours? Quel est son programme électoral, si j'ose dire? Et avec le recul qu'on a à notre époque, quel est son bilan? 4 questions donc, auxquelles on va répondre en 4 points. Un homme du peuple, une expérience inégalée, un programme étonnant, un bilan auquel participer. Un homme du peuple donc. En politique, les lieux ont une symbolique importante. Le lieu d'une déclaration, d'un discours de campagne ou d'une manifestation n'est jamais neutre. Et certains lieux sont automatiquement associés avec une personne ou un courant politique. Prenons par exemple les discours de Bayeux et le général de Gaulle. Ou si on prend un exemple un peu plus contemporain, l'université d'été du PS à La Rochelle. Qu'en est-il pour le sauveur annoncé par Michée? D'où va-t-il venir? Et qu'est-ce que ce lieu nous révèle sur lui? Le texte nous dit qu'il sortira d'une petite bourgade, insignifiante du nom de Bethléem, Bethléem Ephrata. Pourquoi cette ville ? Pourquoi pas Jérusalem, la capitale économique et politique de Juda ? Une des raisons qui est souvent évoquée est que selon la promesse de Dieu dans Samuel, le dominateur doit être issu de la lignée du roi David, qui est de Bethléem. Mais être de la lignée de David est une chose, et naître à Bethléem est une autre. Le roi Salomon, par exemple, est de la lignée de David, mais n'est pas né à Bethléem. Le choix de la ville de Bethléem par l'Éternel nous révèle quelque part des choses sur la nature même de Dieu. Il choisit un endroit petit, calme, discret et retiré pour changer le cours de l'histoire. Pourquoi ? Eh bien, pour que le peuple et l'humanité et nous, on puisse pas se vanter de nos mérites ou de nos réalisations. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, au verset 27. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. » L'absence de fioritures, de luxe, nous empêche de remarquer autre chose que le grand amour de Dieu qui se dépouille pour nous, qui se dépouille de sa gloire et qui rentre dans notre monde pour nous, pour venir vers nous. Ça nous dit également que l'Éternel est capable de restaurer Israël d'un lieu qui est complètement improbable, insoupçonné. Le sens du nom Bethléem a aussi son importance. En hébreu, Bethléem a un double sens. Ça veut dire la maison du pain, mais ça veut également dire la maison de la guerre. Pourquoi la maison de la guerre ? Parce que le nom du dieu cananéen de la guerre, Lahamu, je ne sais pas comment ça se prononce en hébreu, mais je pense que ça se prononce comme ça, Lahamu, c'est le nom du dieu cananéen de la guerre, et donc maison du pain et maison de la guerre. Celui qui dira de lui-même dans l'évangile de Jean, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Eh bien, celui-là est né dans la maison du pain. En s'identifiant avec le pain de vie, c'est-à-dire le pain qui donne la vie, Jésus déclare qu'il est vital et essentiel pour notre âme et pour notre existence. En dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. Et notre passage sur terre ressemble en réalité au gigotement d'un poisson qui est hors de l'eau. Je vais vous donner quelques secondes pour que vous imaginiez cette image dans votre tête, hein, un poisson qui gigote. Ben, c'est un peu notre cas aujourd'hui. Nous prenons difficilement conscience de cela, même en tant que chrétien, parce qu'on est tellement occupé, parce qu'il y a tellement de distractions autour de nous. Pourtant, notre vie n'est qu'une goutte d'eau dans un océan au regard de l'éternité. Et nous avons besoin d'être en communion avec Dieu. C'est pour lui que nous avons été créés. La maison du pain donc, mais également Bethléem signifie la maison de la guerre. Pour Jésus, il n'y a pas de juste milieu. Soit il se présente à l'homme comme une maison de pain, maison du pain, soit comme une maison de guerre. Il est nourriture pour celui qui se repent, et qui le reconnaît comme Seigneur et Maître, mais il est aussi jugement et condamnation pour celui qui le rejette. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Ces paroles sont dures à entendre. Elles sont dures à entendre, d'autant plus en cette période festive de Noël. Nous avons à l'esprit l'enfant Jésus, tout doux, tout mignon dans sa crèche. Et souvent, quand on réfléchit à Jésus, on a plus à l'image, dans notre tête, l'image qui est à droite que l'image qui est à gauche. Je me souviens d'un échange avec ma belle-mère, donc la mère de Sophie, qui était révoltée. Elle était indignée à l'idée d'un juge, d'un Dieu qui juge. Elle me disait, Dieu est amour. Il ne peut pas juger. Il ne peut juger. Oui, Dieu est amour, mais encore faut-il qu'on reçoive cet amour, qu'on l'accepte, qu'on y croit. On parle beaucoup de l'amour de Dieu, mais on oublie de préciser à quel point Dieu déteste l'iniquité, la méchanceté, l'idolâtrie, notre autosuffisance. Parfois, on sent qu'on veut le beurre et l'argent du beurre. On veut être indépendant, on veut vivre comme on veut être autosuffisant, mais on veut aussi l'amour de Dieu, on veut son pardon, on veut qu'il nous aime. Mais la réalité, c'est que ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, car tant qu'on ne reconnaît pas qu'on est pécheur et qu'on a besoin d'être pardonné, son amour n'est qu'une belle histoire à raconter autour d'un feu de cheminée le 24 décembre. Est-ce comme ça qu'on veut fêter Noël ? Notre homme providentiel est donc venu sur terre à Bethléem dans une grande simplicité et une grande humilité. C'est un homme du peuple, si j'ose dire. Mais sous ses apparences insignifiantes, il a en réalité une très grande expérience. C'est notre deuxième partie, une expérience inégalée. Le texte nous dit que son origine remonte loin dans le passé, ou aux temps anciens selon une autre traduction, à l'éternité. Ce type d'expression est assez familier dans les écrits de l'Ancien Testament pour désigner l'Éternel, pour désigner Dieu. Je vous donne quelques exemples. C'est le cas, par exemple, du premier chapitre de Habacuc, où Dieu est désigné comme celui qui est depuis toujours. Ou dans le psaume 55, qui décrit Dieu comme celui qui siège depuis l'éternité. Ou encore dans le livre de Daniel, qu'il qualifie comme l'ancien des jours. Ceci est d'autant plus surprenant que c'est l'Éternel lui-même dans ce texte qui précise cela de celui qui va dominer. Aussi mystérieux que cela puisse être, ça veut dire que le Sauveur promis est semblable à l'Éternel. Il a une nature divine. Et l'Ancien Testament nous révèle qu'il s'est déjà manifesté à plusieurs reprises sous cette apparence-là. Il apparaît à Abraham au chapitre 18, sous les chaînes de Mamré. Il est celui qui lutte avec Jacob jusqu'à l'aube, au chapitre 32 aussi de la Genèse. Il est celui qui rencontre Josué auprès de l'autre côté de la rivière et qui lui dit « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » C'est lui aussi qui était avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, dans le livre de Daniel. C'est lui. Ce n'est pas quelqu'un d'inexpérimenté, un novice, mais c'est quelqu'un qui était actif, qui a eu un rôle central dans l'histoire du peuple d'Israël. Avant, on ignorait qui il était. On ignorait son identité. Ou en tout cas, ça constituait un mystère. Mais avec sa venue, son identité éclate au grand jour. Il est Dieu le Fils. Et pour reprendre l'expression de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il est héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Il est le rayonnement de sa gloire, de la gloire de Dieu, et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Un homme du peuple, donc, qui a déjà une grande expérience, et surtout, il a tout un programme. C'est notre troisième partie. Un programme étonnant. Nous allons nous concentrer ce soir sur deux thèmes du programme du Sauveur, parce qu'on ne pourra pas tout couvrir. Et donc, je vous invite à regarder les versets 3 et 4 du texte, où il est dit « Il va conduire son troupeau ». Et à la fin du verset 4, il va ramener la paix. Ce sont les deux aspects sur lesquels nous allons nous concentrer ce soir. Dans la traduction du Semeur ou dans d'autres traductions un peu plus littérales, le verbe « conduira » est traduit par « il paîtra son troupeau ». Et donc, ces traductions s'inscrivent dans le champ lexical du bon berger, du berger qui guide son troupeau. C'est une image d'ailleurs que Jésus lui-même va employer dans Jean 10 et va se déclarer être le bon berger. Je suis le bon berger, celui qui veille nuit et jour sur ses brebis. Et le bon berger, d'après Jésus, se distingue par deux caractéristiques majeures. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis et le bon berger connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Il donne sa vie et c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire, il va donner sa vie sur la croix. Et il connaît ses brebis, oui, parce qu'il les a créées, mais parce que aussi il a noté leur nom dans le livre de la vie. Le deuxième thème du programme sur lequel on se penche ce soir, c'est la paix. C'est la paix. Dans les programmes politiques actuels, on entend souvent parler de réforme, de changement, de sécurité, mais très peu de paix. C'est peut-être parce qu'on ne vit pas dans une période de guerre sur notre territoire. Mais en quoi la paix est-elle importante aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est un concept important pour nous aujourd'hui? La paix telle qu'elle est évoquée dans la Bible, et il faut faire très attention à ce point-là, ce n'est pas l'absence de problème, ce n'est pas la tranquillité. La paix telle qu'elle est évoquée dans la Bible est décorrélée des circonstances extérieures. C'est le cas par exemple de l'apôtre Paul quand il était en prison à Philippe. Et donc on peut parler de paix, même dans des conditions difficiles, dans des conditions où on a du mal à voir l'issue. Mais nous distinguons dans le Nouveau Testament deux types de paix. Il y a une paix qui est objective, qui a trait à notre relation avec Dieu, et une paix qui est subjective, qui est plus en lien avec notre vie personnelle. Une paix qui est objective. L'être humain, dans sa condition de base, n'a pas de paix avec Dieu. Nous sommes au contraire en rébellion avec lui. La Bible va jusqu'à dire, dans la lettre aux Colossiens, « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, mais il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » À travers Jésus et son sacrifice, à travers sa rédemption, nous sommes réconciliés avec Dieu. L'armistice et l'accord de paix est signé, il est scellé par le sang de Jésus sur la croix. Il ne peut plus être défait. Et c'est pour cela que c'est une paix qui est objective. Elle est en dehors de nous. Et rien ne pourra changer cette paix-là que nous avons avec Dieu. L'apôtre Paul dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » N'est-ce pas une bonne nouvelle? N'est-ce pas une bonne nouvelle pour nous ce soir? Toutefois, il existe une paix qui est plus personnelle, plus subjective. C'est la paix, et c'est de cette paix que Jésus parle lorsqu'il annonce la veille de son arrestation, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Vous avez remarqué ce qu'il dit? « Je vous donne ma paix et non pas une paix. » Comme on a dit, cette paix n'est pas juste un simple moment de tranquillité. C'est une paix profonde, c'est une paix qui est intime. C'est la paix qui résulte du fait de savoir que nous sommes pardonnés et profondément aimé malgré notre passé, malgré nos errements actuels. C'est la paix d'être libéré de l'emprise et de l'esclavage du péché et de pouvoir, avec l'aide de l'Esprit, y renoncer. C'est une paix débarrassée de l'anxiété. C'est une paix débarrassée du stress quotidien parce qu'on sait qu'il a déjà pris soin du lendemain. C'est la paix de pouvoir dire face aux aléas de la vie, comme l'apôtre Paul, « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. » Finalement, c'est la paix qui résulte de la certitude que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous. Romains chapitre 8. Avons-nous cette paix aujourd'hui? Est-ce qu'on a cette paix dans nos vies, dans nos cœurs? Je sais que pour moi, ce n'est pas toujours évident au quotidien. Ce n'est pas toujours facile. Mais je sais également que plus on s'attache à Dieu, plus on s'attache à sa parole, à ses commandements au quotidien, et plus cette paix devient réelle dans notre vie. Et plus on arrive à mieux communier avec l'Esprit qui nous donne cette paix, qui nous la fait ressentir au plus profond de nous. Mais ça implique une persévérance de notre part. Il faut persévérer quotidien, s'attacher quotidiennement à Dieu. Un lieu insoupçonné donc, une expérience inégalée, un programme étonnant. Cependant, il ne faut pas oublier que notre texte est une prophétie du 8e siècle et qui a été écrit, non pas en tant que fable ou juste pour encourager le peuple d'Israël, mais c'est une prophétie qui a été accomplie. Ou en tout cas, soit elle a été accomplie, soit elle n'a pas été accomplie. Quatrième partie, un bilan auquel nous sommes invités à prendre part. Certaines personnes remettent l'existence historique de Jésus. Il suffit par exemple de voir la dernière édition du Monde des Religions qui le suggère sous forme d'un débat. Ce fut également le cas de ma première année en université où le prof d'histoire, dans un des cours, a affirmé qu'il n'y a aucune preuve historique pour l'existence de Jésus. Il y a certains qui ont commencé à rigoler, à ricaner, d'autres qui s'en moquaient complètement, mais mon camarade et moi, on était complètement ébranlés, surtout qu'on n'avait aucun argument à avancer vis-à-vis du prof. En plus, c'était le prof, première année, on était assez intimidés, et du coup, il a avancé un certain nombre d'arguments. Mais en cherchant par la suite, nous nous sommes vite rendus compte que la position du professeur était très controversée. Il ne s'agit pas ce soir de vous faire un exposé global sur les preuves de l'existence historique de Jésus, mais de partager quelques éléments de réflexion. Au-delà des sources bibliques qu'on a, telles que les évangiles, qui sont fiables, de nombreux historiens romains au 1er et 2e siècle mentionnent l'existence de Jésus. Je vous en donne quelques exemples. En 112, Pline le Jeune écrit dans sa lettre à l'empereur romain Trajan, en parlant des chrétiens, qui chantent entre eux un hymne à Christ comme à un dieu. Le grand historien de la Rome impériale, Tacite, rapporte dans ses annales que le nom chrétien vient de Christ, qui sous Tibère fut livré au supplice par le procurateur Pontius Pilate. Jésus est également mentionné par Suétone, ou sur un ton un peu plus moqueur par Lucien de Samosate, ou Cels, qui raillait les chrétiens en écrivant dans son discours véritable, j'adore la citation, « Vous nous donnez pour Dieu un personnage qui termina par une mort misérable, une vie infâme. » Donc même ceux qui étaient hostiles au christianisme au 1er siècle reconnaissent l'existence et la mort de Jésus sur la croix. Il ne faut pas bien sûr oublier l'historien romain Flavius Josèphe qui dans ses antiquités parle de Jésus comme un faiseur d'œuvres admirables et qui fut mis à mort par crucifixion sous Ponce Pilate. On ne mentionne même pas les références des auteurs des sources chrétiennes comme Justin Martyr, Tertullien, ou même les sources hébraïques comme le Talmud qui mentionne l'existence de Jésus. Et ce qu'il faut savoir, ce n'est qu'au XIXe siècle qu'un certain nombre de savants issus de l'école hypercritique qui mettèrent en cause l'existence historique de Jésus. C'est ce qu'on appelle la thèse mythiste. Mais aujourd'hui, je pense qu'il ne semble qu'il n'y ait aucun doute sur le sujet parmi les universitaires sérieux, étant donné que la documentation historique sur l'existence de Jésus est unique en son genre de par sa diversité et sa proximité avec les faits. L'existence de Jésus est plus fournie que n'importe quel autre personnage ou religion de l'Antiquité. Et je vous invite à faire des recherches de votre côté sur le sujet. Ce qui est donc incontestable, c'est que Jésus a existé et il est mort sur la croix. Après, qu'est-ce que ça implique pour nous aujourd'hui? Ceci relève plutôt de la foi. Beaucoup ont déjà accueilli Jésus comme leur berger et qui goûtent au quotidien à son amour et à sa paix qu'il donne. L'histoire de Noël est l'histoire d'une main tendue à une humanité qui coule, qui meurt lentement mais sûrement. C'est une histoire d'espérance, parce que le remède à notre maladie existe et il est gratuit. Acceptez-vous l'invitation? Acceptez-vous cette main tendue? Moi, je vous invite à voter pour. Vous pouvez voter contre, mais l'abstention cette fois-ci n'est pas permise. Je vous invite à la prière. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu t'es rendu semblable à nous. Tu t'es dépouillé toi-même, abandonnant ta gloire pour nous secourir, pour nous ramener à toi. Donne-nous, Seigneur, à t'élire comme président de notre vie, sans limite de mandat, et avec autorité complète et absolue. Donne-nous, Seigneur, à vivre de ta paix, de ton amour au quotidien. Donne-nous, Seigneur, à te recevoir quotidiennement pour être encouragé, réconforté, pour qu'on puisse ressentir ton amour et ta paix. Donne-nous, Seigneur, à venir quotidiennement à tes pieds pour déposer nos fardeaux, déposer nos peines, les sujets qui nous préoccupent. Et merci, Seigneur, parce que nous pouvons nous confier en toi dans ces petites choses, comme nous pouvons le faire dans les grandes. Au nom de Jésus, je prie. Amen.